Saint Augustin, Les Confessions, livre 8e, chapitre 5. Tyrannie de l'habitude. Dans le chapitre précédent, Augustin, alors encore orateur, assiste au récit de la conversion d'un pécheur, lequel il désire vivement imiter. L'homme de Dieu m'avait fait ce récit de Victorinus, et je brûlais déjà de l'imiter. Telle avait été l'intention de Simplicianus. Et quand il ajouta qu'au temps de l'empereur Julien, où un édit défendit aux chrétiens d'enseigner les lettres et l'art oratoire, Victorinus s'était empressé d'obéir à cette loi, désertant l'école de Faconde, plutôt que votre verbe, qui donne l'éloquence à la langue de l'enfant, il ne me parut pas moins heureux que d'avoir trouvé tant de loisirs pour vous. C'est après un tel loisir que je soupirais, non plus dans les lieux étrangers, mais dans les fers de ma volonté. Le démon tenait dans sa main mon vouloir, et il m'en avait fait une chaîne, et il m'en avait lié. Car la volonté pervertie fait la passion, l'asservissement à la passion fait la coutume, le défaut de résistance à la coutume fait la nécessité, et ces cœurs d'iniquité étaient comme les anneaux de cette chaîne dont m'enlaçait le plus dur esclavage. Cette volonté nouvelle qui se levait en moi, de vous servir sans intérêt, de jouir de vous, mon Dieu, seule joie véritable. Cette volonté était trop faible pour vaincre la force invétérée de l'autre. Ainsi, deux volontés en moi, une vieille, une nouvelle, l'une charnelle, l'autre spirituelle, étaient aux prises, et cette lutte brisait mon âme. Ainsi, ma propre expérience me donnait l'intelligence de ces paroles. La chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Galatéens 5, 17. De part et d'autre, c'était toujours moi. Mais il y avait plus de moi dans ce que j'aimais que dans ce que je haïssais en moi. Là, en effet, il n'y avait déjà presque plus de moi, car je le souffrais plutôt contre mon gré que je ne le faisais volontairement. Et cependant, la coutume s'était par moi aguerrie contre moi, puisque ma volonté m'avait amené où je ne voulais pas. Et de quel droit eussé-je protesté contre le juste châtiment inséparable de mon péché? Je n'avais plus alors l'excuse qui me faisait attribuer mon impuissance à mépriser le siècle pour vous servir, aux indécisions de mes doutes. Car j'étais certain de la vérité. Mais engagé à la terre, je refusais d'entrer à votre solde, et je craignais autant la délivrance des obstacles qu'il en faut craindre l'esclavage. Ainsi, le fardeau du siècle pesait sur moi comme le doux accablement du sommeil. Et les méditations que j'élevais vers vous ressemblaient aux efforts d'un homme qui veut s'éveiller et, vaincu par la profondeur de son assoupissement, y replonge. Et il n'est personne qui veuille dormir toujours, et la raison, d'un commun accord, préfère la veille. Mais souvent, on hésite à secouer le joug qui engourdit les membres, et l'ennui du sommeil cède au charme plus doux que l'on y trouve, quoique l'heure du lever soit venue. Ainsi, je ne doutais pas qu'il ne valût mieux me livrer à votre amour que de m'abandonner à ma passion. Le premier parti me plaisait, il était vainqueur. Je goûtais l'autre, et j'étais vaincu. Et je ne savais que répondre à votre parole. Lève-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éphésiens 5, 14. Et vous m'entoureriez d'évidents témoignages, et convaincu de la vérité, je n'avais à vous opposer que ces paroles de lenteur et de somnolence. Tout à l'heure, encore un instant, laissez-moi un peu. Mais ce tout à l'heure devenait jamais, ce laissez-moi un peu durait toujours. Vainement, je me plaisais en votre loi, selon l'homme intérieur, puisqu'une autre loi luttait dans ma chair contre la loi de mon esprit et m'entraînait captif de la loi du péché, incarnée dans mes membres. Car la loi du péché, c'est la violence de la coutume qui entraîne l'esprit et le retient contre son gré, mais non contre la justice, puisqu'il s'est volontairement asservi. Malheureux homme! qui me délivrera du corps de cette mort. Sinon, votre grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chapitre 6 Récit de Potitianus. Comment vous m'avez délivré de cette chaîne étroite de sensualité et de l'esclavage du siècle? Je vais le raconter. À la gloire de votre nom, Seigneur, mon Rédempteur et mon secours. Je vivais dans une anxiété toujours croissante et sans cesse, soupirant après vous. Je fréquentais votre église, autant que me le permettait ce fardeau d'affaires qui me faisait gémir. Avec moi était Alypius, sorti pour la troisième fois de sa charge d'assesseur, attendant en liberté des acheteurs de conseils, comme j'avais des chalands d'éloquence, si toutefois l'éloquence est une marchandise que l'enseignement puisse livrer. Nous avions obtenu l'amitié de Nebridius, de suppléer comme grammairien notre cher Verecundus, citoyen de Milan, qui en avait témoigné le vif désir, nous demandant, au nom de l'amitié, quelqu'un de nous pour lui prêter fidèle assistance dont il avait grand besoin. Ce fut donc pas l'intérêt qui décida Nebridius. Les lettres, s'il eût voulu, lui offraient un plus bel avenir, mais sa bienveillance lui fit un devoir de se rendre à notre prière, doux et excellent ami. Sa conduite fut un modèle de prudence. Il évita soigneusement d'être connu des personnes éminentes dans le siècle, épargnant ainsi toute inquiétude à son esprit qu'il voulait conserver libre et assuré d'autant d'heures de loisirs qu'il pouvait s'en réserver pour chercher la sagesse par méditation, lecture ou entretien. Un jour qu'il était absent, je ne sais pourquoi, nous eûmes la visite, Alypius et moi, d'un de nos concitoyens d'Afrique, Potitianus, l'un des premiers officiers militaires du palais. J'ai oublié ce qu'il voulait de nous, nous nous assîmes pour nous entretenir. Il aperçut par hasard sur une table de jeu qui était devant nous un volume. Il le prit, l'ouvrit, c'était l'apôtre Paul. Il ne s'y attendait certainement pas, croyant trouver quelque ouvrage nécessaire à cette profession qui dévorait ma vie. Il sourit et me félicita du regard, étonné d'avoir surpris auprès de moi ce livre, et ce livre seul. Car il était chrétien zélé, souvent prosterné dans votre église en de fréquentes et longues oraisons. Je lui avouai que cette lecture était ma principale étude. Alors il fut amené par la conversation à nous parler d'Antoine, solitaire d'Égypte, dont le nom si glorieux parmi vos serviteurs nous était jusqu'alors inconnu. Il s'en aperçut et s'arrêta sur ce sujet. Il révéla ce grand homme à notre ignorance, dont il ne pouvait assez s'étonner. Nous étions dans la stupeur de l'admiration au récit de ces irréfragables merveilles de si récente mémoire, presque contemporaine, opérées dans la vraie foi, dans l'Église catholique. Nous étions tous surpris, nous d'apprendre, lui de nous apprendre ces faits extraordinaires. Et ses paroles roulèrent de là sur ces saints troupeaux de monastères, et les parfums de vertu divine qui s'en exhalent sur ces fécondes aridités du désert dont nous ne savions rien. Et à Milan même, hors des murs, était un cloître rempli de bons frères, élevé sous l'aile d'Ambroise, et nous l'ignorions. Il continuait de parler, et nous écoutions en silence. Et il vint à nous conter qu'un jour, à Trèves, l'empereur passant l'après-midi au spectacle du cirque, trois de ses compagnons et lui allèrent se promener dans les jardins, attenant aux murs de la ville. Et comme ils marchaient deux à deux, l'un avec lui, les deux autres ensemble, ils se séparèrent. Ceux-ci, chemin faisant, entrèrent dans une cabane où vivaient quelques-uns de ces pauvres volontaires, vos serviteurs, à qui le royaume des cieux appartient. Matthieu 5:3. Et ils trouvèrent un manuscrit de la vie d'Antoine. L'un d'eux se mit à lire. Il admire, son cœur brûle, et tout en lisant, il songe à embrasser une telle vie, à quitter la milice du siècle pour vous servir. Ils étaient l'un et l'autre agents des affaires de l'empereur. Rempli soudain d'un divin amour et d'une sainte honte, il s'irrite contre lui-même et, jetant les yeux sur son ami, « Dis-moi, je te prie, où donc tendent tous nos travaux? Que cherchons-nous? Pour qui portons les armes? Quel peut être notre plus grand espoir au palais que d'être amis de l'empereur? Et dans quelle fortune, quelle fragilité, que de périls, et combien de périls pour arriver au plus grand péril? Et puis quand cela sera-t-il? Mais, ami de Dieu, si je veux l'être, je le suis, et sur l'heure. » Il parlait ainsi dans la crise de l'enfantement de sa nouvelle vie, et puis ses yeux reprenant leur course dans ces saintes pages, il lisait, il changeait au-dedans. Là où votre œil voyait, et son esprit se dépouillait du monde, comme on vit bientôt après. Et il lisait, et les flots de son âme roulaient frémissants. Il vit et prit le meilleur parti, il était à vous déjà, lorsqu'il dit à son ami, « C'en est fait, je romps avec tout notre espoir. Je veux servir Dieu, et à cette heure, en ce lieu, je me mets à l'œuvre. Si tu n'es pas pour me suivre, ne me détourne pas. » L'autre répond qu'il veut aussi conquérir sa part de gloire et de butin. Et tous deux, déjà vos serviteurs, bâtissent la tour qui s'élève avec ce que l'on perd pour vous suivre. Petit Janus et son compagnon, après s'être promenés dans une autre partie du jardin, arrivèrent, en les cherchant à cette retraite, et les avertirent qu'il était temps de rentrer parce que le jour baissait. Mais eux, déclarant leur dessein, comment cette volonté leur était venue et s'était affermie en eux, prièrent leurs amis de ne pas contrarier leur résolution s'ils se refusaient de la partager. Ceux-ci, ne se sentant pas changés, pleurèrent néanmoins sur eux-mêmes, disait Ponticianus. Ils félicitèrent pieusement leurs camarades, se recommandant à leurs prières. Ils retournèrent au palais, le cœur traînant toujours à terre, et les autres, le cœur attaché au ciel, restèrent dans la cabane. Tous deux avaient des fiancés qui, à cette nouvelle, vous consacrèrent leur virginité. Chapitre 7. Agitation de l'âme d'Augustin pendant le récit de Potitianus. Tel fut le récit de Potitianus. Mais vous, Seigneur, pendant qu'il parlait, vous me retourniez vers moi, vous effaciez ce dos que je me présentais pour ne pas me voir, et vous me placiez devant ma face pour que je visse enfin toute ma laideur et ma difformité, et mes taches, et mes souillures, et mes ulcères. Et je voyais, et j'avais horreur, et impossible de fuir de moi. Et si je m'efforçais de détourner mes yeux de moi, cet homme venait avec son récit, et vous m'opposiez à nouveau à moi, et vous me creviez les yeux de moi-même, pour que mon iniquité me fût évidente et odieuse. Je la connaissais bien, mais par dissimulation, par connivence, je l'oubliais. Alors aussi, plus je me sentais d'ardent amour pour ces confiances salutaires livrées avec réserve à votre cure, plus j'avais, au retour sur moi, de haine et d'imprécation contre moi-même. Tant d'années, tant d'existences taries, 12 ans et plus depuis cette 19e année de mon âge où la lecture de l'Hortensius de Cicéron avait éveillé en moi l'amour de la sagesse. Et je différais encore ce vain bonheur terrestre à la poursuite de cette félicité dont la recherche seule, même sans possession, serait encore préférable à la découverte du plus riche trésor, à la royauté des nations, à l'empressement de ses nombreux esclaves, les voluptés corporelles. Mais malheureux que j'étais, malheureux au seuil même de l'adolescence, je vous avais demandé la chasteté, je vous avais dit « Donnez-moi la chasteté et la continence, mais pas encore. » Je craignais d'être trop tôt exaucé, trop tôt guéri de ce mal de concupiscence que j'aimais mieux assouvir qu'éteindre. Et je m'étais égaré dans les voies d'une superstition sacrilège, et je n'y trouvais point de certitude, et je la préférais pourtant aux doctrines dont je n'étais pas le pieux disciple, mais l'ardent ennemi. Et depuis, je n'avais remis de jour en jour, comme je croyais, à rejeter les espérances du siècle, à m'attacher à vous seul, que faute d'apercevoir ce fanal directeur de ma course. Mais le jour où était arrivé, où je me trouvais tout nu devant moi, et ma conscience me criait, « Où es-tu, langue, qui disait que l'incertitude du vrai t'empêchait seul de jeter là ton bagage de vanité ?»« Eh bien, tout est certain maintenant. La vérité te presse. À de plus libres épaules sont venues des ailes qui emportent des âmes, à qui il n'a fallu ni le pesant labeur de tant de recherches, ni d'années de méditation. » Ainsi je me rongeais intérieurement. J'étais pénétré de confusion et de honte quand Potitianus parlait. Son discours et le motif de sa visite cessant, il se retira. Et alors, que ne me suis-je pas dit à moi-même? De quel coup le fouet de mes pensées meurtrit mon âme, l'excitant à me suivre dans mes efforts pour vous joindre, était-elle rétive? Elle refusait et ne s'excusait pas. Toutes les raisons étaient épuisées. Il ne lui restait qu'une peur muette. Elle appréhendait, comme la mort, de se sentir tirer la bride à l'abreuvoir de la coutume, où elle buvait une consomption mortelle. Chapitre 8. Lutte intérieure. Alors, pendant cette violente rixe au logis intérieur, où je poursuivais mon âme dans le plus secret réduit de mon cœur, le visage troublé comme l'esprit, j'interpelle Alypius, je m'écrie. « Et quoi? Que faisons-nous là? N'as-tu pas entendu? Les ignorants se lèvent, ils forcent le ciel, et nous, avec notre science, sans cœur, nous voilà vautrés dans la chair et le sang. Est-ce honte de les suivre? N'avons-nous pas honte de ne pas même les suivre? » Telles furent mes paroles. Et mon agitation m'emporta brusquement loin de lui. Il se taisait, surpris, et me regardait, car mon accent était étrange, et mon front, mes joues, mes yeux, le teint de mon visage, le ton de ma voix, racontaient bien plus mon esprit que mes paroles qui m'échappaient. Notre demeure avait un petit jardin dont nous avions la jouissance, comme du reste de la maison, car le propriétaire, notre hôte, n'y habitait pas. C'est là que m'avait jeté la tempête de mon cœur. Là, personne ne pouvait interrompre ce sanglant débat que j'avais engagé contre moi-même, dont vous saviez l'issue, et moi non. Mais cette fureur m'enfantait à la raison, cette mort à la vie. Sachant que j'étais de mal, j'ignorais ce qu'en un moment j'allais être de bien. Je me retirai au jardin. Alypius me suivait pas à pas, car j'étais seul même en sa présence. Et pouvait-il me quitter dans une telle crise? Nous nous assîmes le plus loin possible de la maison, et mon esprit frémissait, et les vagues de mon indignation se soulevaient contre moi, de ce que je ne passais pas encore à votre volonté, à votre alliance, ô mon Dieu, où toutes les puissances de mon âme me poussaient en me criant « Courage !» Et leurs louanges me soulevaient vers le ciel, et pour cela il ne fallait ni navire, ni char. Il ne fallait pas même faire ce pas qui nous séparait de la maison. Car non seulement aller, mais arriver à vous, n'était autre chose que vouloir, mais d'une volonté forte et pleine, et non d'une volonté languissante et boiteuse, se dressant à demi, et se débattant contre l'autre moitié d'elle-même qui retombe. Et dans cette angoisse de mes indécisions, je faisais plusieurs de ces mouvements de corps que souvent des hommes veulent et ne peuvent faire, soit absence des membres, ou qu'ils soient emprisonnés dans des liens, paralysés de langueur, retenus par quelque entrave. Si je m'arrache les cheveux, si je me frappe le front, si j'embrasse mes genoux de mes doigts entrelacés, je le fais parce que je l'ai voulu, et je pouvais le vouloir sans le faire. Si la mobilité de mes membres ne m'eût obéi, combien ai-je donc fait de choses où vouloir et pouvoir n'étaient pas tout un? Mais alors, je ne faisais pas ce que je désirais d'un désir incomparablement plus puissant, et il ne s'agissait que de vouloir pour pouvoir, c'est-à-dire vouloir pour vouloir, car ici la puissance n'était autre que la volonté. Vouloir, c'était faire, et pourtant rien ne se faisait. Et mon corps obéissait plutôt à la volonté la plus imperceptible de l'âme qui d'un signe lui commandait un mouvement, que l'âme ne s'obéissait à elle-même pour accomplir dans la volonté seule sa plus forte volonté. Chapitre 9. L'esprit commande au corps. Il est obéi, l'esprit se commande et il se résiste. D'où vient ce prodige? Quelle en est la cause? Faites luire votre miséricorde, que j'interroge ces mystères de vengeance et qu'ils me répondent. Que je pénètre cette nuit de tribulation qui couvre les fils d'Adam. D'où vient, pourquoi ce prodige? L'esprit commande au corps, il est obéi. L'esprit se commande, il se résiste. L'esprit commande à la main de se mouvoir. Et l'agile docilité de l'organe nous laisse à peine distinguer le maître de l'esclave. Et l'esprit est esprit, la main est corps. L'esprit commande de vouloir à l'esprit, à lui-même, et il n'obéit pas. D'où vient ce prodige? La cause? Celui-là, dis-je, se commande de vouloir. Qui ne commanderait s'il ne voulait? Et ce qu'il commande ne se fait pas. Mais il n'en veut qu'à demi, donc il ne commande qu'à demi. Car tant il veut, tant il commande, et tant il est désobéi, tant il ne veut pas. Si la volonté dit, soit la volonté, autrement, que je sois, elle n'est pas entière dans son commandement, et partant, elle n'est pas obéie. Car si elle était entière, elle ne se commanderait pas d'être, elle serait déjà. Ce n'est donc pas un prodige que cette volonté partagée, qui est et n'est pas, c'est la faiblesse de l'esprit malade, qui, soulevé par la main de la vérité, ne se relève qu'à demi et retombe de tout le poids de l'habitude, et il n'existe ainsi de volonté que parce qu'il en est toujours une incomplète, et que ce qui manque à l'une s'ajoute à l'autre. Chapitre 11. Dernier combat. Ainsi je souffrais, et je me torturais, m'accusant moi-même avec une amertume inconnue, me retournant et me roulant dans mes liens jusqu'à ce que j'eusse rompu tout entière cette chaîne qui ne me retenait que par un faible anneau, mais qui me retenait pourtant. Et vous me pressiez, Seigneur, au plus secret de mon âme, et votre sévère miséricorde me flagellait à coups redoublés de crainte et de honte, pour prévenir une langueur nouvelle qui, retardant la rupture de ce faible et dernier chaînon, lui rendrait une nouvelle force d'étreinte. Car je me disais au-dedans de moi, « Allons, allons, point de retard !» Et mon cœur suivait déjà cette parole, et j'allais agir, et je n'agissais pas. Et je ne retombais pas dans l'abîme de ma vie passée, mais j'étais debout sur le bord, et je respirais. Et puis je faisais effort pour arriver, atteindre, tenir. De quoi s'en fallait-il? Et je n'arrivais pas, et je n'atteignais pas, et je ne tenais rien, hésitant à mourir à la mort, à vivre à la vie. Je me laissais dominer plutôt par le mal, ce compagnon d'enfance, que par ce mieux étranger. Et plus l'insaisissable instant où mon être allait changer devenait proche, plus il me frappait d'épouvante. Ni ramené, ni détourné, pourtant, mon pas était suspendu. Et ces bagatelles de bagatelles, ces vanités de vanités, mes anciennes maîtresses, me tiraient par ma robe de chair, et me disaient tout bas, « Est-ce que tu nous revois? Quoi? Dès ce moment nous ne serions plus avec toi pour jamais. Et dès ce moment, ceci, cela, ne te sera plus permis, et pour jamais. Et dès ce moment, ceci, cela, ne te sera plus permis, et pour jamais. Et tout ce qu'elle me suggérait dans ce que j'appelle ceci, cela, ce qu'elle me suggérait, ô mon Dieu, que votre miséricorde l'efface de mon âme, que votre miséricorde l'efface de l'âme de votre serviteur. Quelle souillure, quelle infamie! Elle ne m'abordait plus de front. querelleuse et hardie, mais par de timides chuchotements murmurés à mon épaule, par de furtives attaques, elle sollicitait un regard de mon dédain. Elle me retardait toutefois dans mon hésitation à les repousser, à me débarrasser d'elle pour me rendre où j'étais appelé. Car la violence de l'habitude me disait « Pourras-tu vivre sans elle ?» Et déjà elle-même ne me parlait plus que d'une voix languissante, car, du côté où je tournais mon front, et où je redoutais de passer, se dévoilait la chaste et sereine majesté de la continence, m'invitant, non plus avec le sourire de la courtisane, mais par d'honnêtes caresses, à m'approcher d'elle sans crainte. Elle étendait, pour me recevoir et m'embrasser, ses pieuses mains, toutes pleines de bons exemples, enfants, jeunes filles, jeunesses nombreuses, tous les âges, veuves vénérables, femmes vieillies dans la virginité, et dans ses saintes âmes. La continence n'était pas stérile. Elle enfantait ces générations de joie céleste qu'elle doit, Seigneur, à votre conjugal amour. Elle semblait me dire, d'une douce et encourageante ironie, « Quoi ? Ne pourras-tu ce qui est possible à ses enfants, à ses femmes ? Est-ce donc en eux-mêmes et non dans le Seigneur leur Dieu que cela leur est possible ? C'est le Seigneur leur Dieu qui me donne à eux. Tu t'appuies sur toi-même et tu chancelles. Et cela t'étonne ? Jette-toi hardiment sur lui, n'aie pas peur. Il ne se dérobera pas pour te laisser tomber. Jette-toi hardiment, il te recevra, il te guérira. » Et je rougissais, parce que j'entendais encore le murmure des vanités, et je restais hésitant, suspendu. Elle me parlait encore, et je croyais entendre, « Sois sourd à la voix de ces membres de terre, afin de les mortifier. Les délices qu'ils te racontent sont-elles comparables aux suavités de la loi du Seigneur ton Dieu ?» Cette lutte intestine n'était qu'un duel de moi avec moi, et Alypius, attaché à mes côtés, attendait en silence l'issue de cette étrange révolution. Chapitre 12. Prends, lis. Quand du fond, le plus intérieur, ma pensée eut retiré et amassé toute ma misère devant les yeux de mon cœur, il s'y éleva un affreux orage, chargé d'une pluie de larmes. Et pour les répandre avec tous mes soupirs, je me levai, je m'éloignai d'Alypius. La solitude allait me donner la liberté de mes pleurs, et je me retirai assez loin pour n'être pas importuné, même d'une si chère présence. Tel était mon état, et il s'en aperçut, car je ne sais quelle parole m'était échappée ou vibrait un son de voix gros de larmes. Et je m'étais levé. Il demeura à la place où nous étions assis, dans une profonde stupeur. Et moi j'allais m'étendre, je ne sais comment, sous un figuier. Et je lâchai les rênes à mes larmes, et les sources de mes yeux ruisselèrent comme le torrent d'un artifice agréable. Et je vous parlai, non pas en ces termes, mais en ce sens. « Et jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand, Seigneur, serez-vous irrité ? Ne gardez pas souvenir de mes iniquités passées. » Psaume 83, 5, 8. Car je sentais qu'elle me retenait encore, et je m'écriais en sanglots. « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Demain ? Pourquoi à l'instant ? Pourquoi pas sur l'heure en finir avec ma honte ?» Je disais, je pleurais dans toute l'amertume d'un cœur brisé. Et tout à coup, j'entends sortir d'une maison voisine, comme une voix d'enfant ou de jeune fille qui chantait et répétait souvent « Prends, lis, prends, lis !» Et aussitôt, changeant de visage, je cherchais sérieusement à me rappeler si c'était un refrain en usage dans quelque jeu d'enfant. Mais rien de tel ne me revint à la mémoire. Je réprimai l'essor de mes larmes, et je me levai, et ne vis là qu'un ordre divin d'ouvrir le livre de l'apôtre, et de lire le premier chapitre venu. Je savais qu'Antoine, survenant un jour à la lecture de l'Évangile, avait saisi comme adressé à lui-même ces paroles. « Va, vends ce que tu as, Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens, suis-moi. Matthieu 19, 21. Et qu'un tel oracle l'avait aussitôt converti à vous. Je revins vite à la place où Alypius s'était assis, car, en me levant, j'y avais laissé le livre de l'apôtre. Je le pris, l'ouvris, et lus en silence le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, ni dans les volontés impudiques, ni en conteste ni en jalousie. Mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, et ne cherchez pas à flatter votre chair dans ses désirs. Je ne voulus pas, je n'eus pas besoin d'en lire davantage. Ces lignes à peine achevées, il se répandit dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa les ténèbres de mon incertitude. Alors, ayant laissé dans le livre la trace de mon doigt ou je ne sais quelle autre marque, je le fermai et, d'un visage tranquille, je déclarai tout à Alypius. Et lui me révèle à son tour ce qui, à mon insu, se passait en lui. Il demande à voir ce que j'avais lu. Je le lui montre, et lisant plus loin que moi, il recueille les paroles suivantes que je n'avais pas remarquées. Assistez le faible dans la foi. Romains 14, 1. Il prend cela pour lui et me l'avoue. Fortifié par cet avertissement dans une résolution bonne et sainte, et en harmonie avec cette pureté de mœurs dont j'étais loin depuis longtemps, il se joint à moi sans hésitation et sans trouble. À l'instant, nous allons trouver ma mère. Nous lui contons ce qui arrive. Elle se réjouit. Comment cela est arrivé? Elle tressaille de joie, elle triomphe. Et elle vous bénissait. Ô vous qui êtes puissant, à exaucer au-delà de nos demandes, au-delà de nos pensées. Éphésiens 3, 20. Car vous lui aviez bien plus accordé en moi que ne vous avez demandé ses plaintes et ses larmes touchantes. Car j'étais tellement converti à vous que je ne cherchais plus cette femme, que j'abdiquais toute espérance dans le siècle, élevé désormais sur cette règle de foi, où votre révélation m'avait jadis montré debout à ma mère. Et son deuil était changé en une joie bien plus abondante qu'elle n'avait espérée, bien plus douce et plus chaste que celle qu'elle attendait des enfants de ma chair.